et messieurs, ladies and gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien. Bon.
Bonsoir et bienvenue dans la causerie au 102.2 ou sur radiocali.org avec ce soir dans le coin gauche à la technique Clara, celle que l'on appelle la killeuse de blanc. Oui, de blanc à l'antenne. Cette blague est tombée à l'eau, mais c'était le blanc à l'antenne. Hein, je parle. Okay. Tu ne tues pas les gens dans la rue, c'est interdit.
Bonsoir.
Au micro jaune, on a Jean-Yves.
Bonsoir.
J'arrête les présentations.
Oui, Fab qui a essayé de faire de l'humour, mais qui devrait laisser tomber.
Oui, complètement. Cette blague est cool. Elle s'est effondrée totalement. Bref, si tu veux nous joindre, c'est lacauseriecadu@gmail.com. lacauseriecadu@gmail.com. Et si tu veux réécouter les émissions, c'est sur blogs avec un s.radiocanu.org/lacauserie. Sinon, tu cherches la causerie canu dans ton moteur de recherche et tu pourras même nous trouver dans les univers merveilleux de la balado-diffusion, comme diraient nos amis québécois, et des podcasts, comme disent le reste du monde. Voilà.
C'est tout à fait ça. Et aussi sur les réseaux sociaux commerciaux, enfin, en tout cas sur un réseau socio-commercial, celui des vieux.
Qui commence par F et qui finit par K.
Oui, c'est ça. Il n'y a que les vieux dessus.
donc il y a la causerie.
C'est ça.
Parce qu'on a bien pensé à faire des TikTok de la causerie, mais c'est assez étrange.
Mais c'est surtout qu'on n'est pas bon en Corée, quoi.
Ouais, c'est ça.
Il va falloir qu'on y travaille. Voilà. En chorégraphie, sur pas en Corée le pays, quoi. Ouais. Parce que ce soir, les incompréhensions. Ouais,
Clara, elle a du mal, c'est ça. Non, mais t'imagines sur le générique, ça serait sympa, avec Nadia à la fin.
Ouais, voilà, ce serait vraiment, ça vend du rêve.
Peut-être que si tu restes auditrice, auditeur jusqu'à Noël, peut-être on fera une vidéo, mais tu ne sauras peut-être pas si on l'a fait ou pas, si tu n'es plus là.
Voilà. Noël 2050, il a oublié de le préciser. Et du suivant, on devrait être mort, donc ça va.
C'était ça.
Je crois qu'on a tout dit. On a tout dit. Eh ben, c'est Fab, tu tiens le crachoir. Et on fête les 40 jours de quelque chose qui ressemble à...
À une révolution.
À une révolution.
Et on fête 40 jours d'espoir. Alors, la révolution, c'est un mot qui peut paraître parfois galvaudé. Mais là, en Iran, le 27 octobre, ça fera donc 40 jours que Mahsa Amini est morte et que sa mort a lancé en fait des manifestations et soulèvements qui couvaient en fait depuis des années, hein, parce que souvent on a tendance à dire que c'est la mort de, en fait c'est sa mort qui effectivement est très symbolique, qui a réveillé une colère qui était très contenue jusqu'à maintenant, ou du moins pas toujours, mais voilà. 40 jours, ouais.
Non mais enfin ouais, et puis enfin faut rappeler que des soulèvements de la population,
j'en parlerai,
ouais, il y en a déjà eu quoi.
Donc 40 jours, c'est le nombre de jours de deuil aussi traditionnel en Iran. Alors c'est pour ça que c'est symbolique. Et la fin de ce deuil en fait a été célébrée comme il se doit, célébration qui finalement servait aussi à mesurer le temps écoulé depuis le début de la révolution, 40 jours et plus à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Alors ça paraît rien, mais ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu des révoltes comme ça aussi longues en Iran. Donc depuis maintenant des semaines, Les femmes, puis une immense majorité des habitants d'Iran, se soulèvent, et pas seulement pour la fin du hijab obligatoire, mais pour aller au-delà. Réduire cette révolte au voile uniquement, c'est, même si la symbolique de cet accoutrement vestimentaire imposé est forte, hein, évidemment, bah, ce serait une erreur, et une erreur d'appréciation assez désastreuse. Non, en fait, ces manifestations, grèves, sabotages, provocations contre le régime, sont porteuses de bien plus que cela, en fait. Aujourd'hui, ils et elles descendent dans la rue au son de « nous ne voulons plus de la République islamique ». Donc voilà, au moins on est clair, c'est pas juste on veut garder la République islamique mais sans le hijab, non, c'est nous ne voulons plus de la République islamique, mais aussi au son de ni roi ni mollah, nous ne voulons plus de tout cela. Alors ça peut paraître étonnant, mais ça veut juste dire que ça souligne la volonté des manifestantes et manifestants d'aller non pas vers un retour à l'avant révolution islamique, donc avant 79, mais bien vers la mise en place d'un mode de gouvernement différent de tout ce qu'ils ont connu ces dernières années, y compris avant 1979. Donc voilà.
Oui, parce qu'avant 1979,
c'était
le chat d'Iran.
Ouais, un roi, en fait.
C'était pas l'extase.
C'était pas terrible non plus. La particularité de ce soulèvement, ce qui lui donne en fait un goût de révolution, c'est qu'il intègre maintenant des dimensions assez nombreuses et assez larges. Donc ça va de la liberté individuelle, en particulier pour les femmes, à la résolution du partage des richesses du pays, à la fin de la pauvreté, à la liberté de circulation, à la fin de la surveillance généralisée, à la mise en commun des moyens nécessaires à la vie de toutes et tous, à la prise en compte de l'écologie, la mise à mal de l'élitisme autour de l'école, mais aussi en fait l'abolition des différences ethnoculturelles qu'il peut y avoir en Iran, parce qu'il faut savoir qu'en Iran, c'est une société où les minorités culturelles ou ethniques sont écrasées depuis, même d'ailleurs à l'époque du Shah, hein, sont écrasées au nom de la persianité de l'Iran. Voilà, donc, et là, dans les manifestations, il y a des slogans très clairs pour mettre à bas tout ça. Bien entendu, l'appel a aussi à une forme de laïcité, hein, c'est-à-dire à sortir totalement le religieux du pouvoir et à donner à chaque personne la liberté de croire ou non, de l'afficher ou non dans l'espace public. Ça nous parle, mais ce n'est pas la seule chose qui est portée aujourd'hui. Et il faut en tenir compte, il ne s'agit pas d'une envie d'avancer uniquement sociétale, mais bien d'une révolution pour un nouvel Iran. C'est le slogan que je leur ai repris. Voilà. C'est pas de moi.
Non, c'est pas très original.
Non, là, j'ai piqué le slogan. Des particularités de ce mouvement, en fait, donnent pas mal d'espoir. Hein. Parce que, comme on le disait au début, il y a déjà eu des soulèvements en Iran, des moments de tentative pour sortir de l'oppression. On se souvient tous des femmes qui retiraient leur hijab et le mettaient même parfois au bout d'un bâton. Vous savez, il y avait une photo célèbre ou des vidéos célèbres.
Oui, il y en avait une célèbre, oui.
Voilà, on se souvient aussi des révoltes de 2009, hein, qui ont duré pas mal de temps, mais qui ont été réprimées dans le sang et de façon extrêmement violente. Mais à chaque fois que cela s'est produit, le régime en place pouvait jouer sur plusieurs tableaux. D'abord la répression féroce, parce que c'est toujours le premier tableau, mais aussi finalement, il jouait avec les tensions qui peuvent exister entre les différents peuples qui composent l'Iran actuel. Donc il allait donner un petit peu plus de droits à l'un, un petit peu moins à l'autre, pour essayer de diviser pour mieux régner. Et ça va sembler fonctionner depuis 1979, mais aujourd'hui, ben, ça marche pas. Donc voilà. En fait, on a du mal à le comprendre, mais le fait que ce soit la mort de Mahsa Amini, je vais essayer de le dire, pardon, Mahsa Amini, parce qu'en fait, le H se dit R, j'ai appris ça dans une manif samedi, ouais. Qui déclenche la révolution en cours, la précipite en réalité, c'est loin d'être anodin. Mahsa Amini, elle était kurde, elle ne parlait pas perse comme première langue, elle parlait le kurde, elle aimait les traditions du peuple kurde et elle portait des tenues plutôt kurdes, comme voilà, l'ont souligné beaucoup de tenants du régime, pour essayer d'expliquer aux manifestants qu'elle n'était pas vraiment iranienne, vous voyez, ça peut le dire. Et bien en fait, vous ne savez donc peut-être pas, mais le racisme anti-kurde est exacerbé en Iran par le régime depuis des années, que ce soit sous les mollahs, mais aussi sous le Shah, hein, comme je disais tout à l'heure. Et là, alors que cette femme aurait dû, sur le papier, hein, et du point de vue du régime, ne pas susciter de fort soutien, bah c'est l'exact inverse qui s'est produit. Elle est devenue un symbole qui a uni, finalement, les jeunes en particulier ont partagé à une vitesse folle son portrait et son histoire sur les réseaux sociaux. Sa mort a résonné en beaucoup et a libéré une colère, la colère qui couvait en elle et en eux, en réalité. Et le slogan est né des toutes premières manifestations, femme, vie, liberté.
Bah ouais, et en même temps, enfin, je veux dire, à mon avis, que tu sois kurde ou pas kurde en Iran, si t'es une femme, il y a déjà quelque chose qui résonne avec toi parce que ce qui lui est arrivé peut arriver et est déjà arrivé indépendamment de ton origine, kurde ou pas, iranienne, pure souche ou pas, enfin, comme quoi on a partout les mêmes délires.
Mais parfois ça a marché, c'est-à-dire que parfois il y a des gens qui avaient déjà été tués par la police des mœurs et qui n'étaient pas vus comme étant importants. Sauf que ben voilà, là c'est intéressant de voir que ben il y a eu au contraire un vrai mouvement de solidarité et d'unité. D'ailleurs, l'Iran, c'est une nation qui est quand même pleine de contradictions, parce que c'est aussi une des nations, et voire la nation la plus lettrée de la région, hein, où là vous voyez où se trouve l'Iran, Internet, même contrôlé, a apporté une vraie possibilité pour la jeunesse, et pas que d'ailleurs, de communiquer, d'échanger et de se vivre comme finalement unis, plutôt que chacun dans ses cases identitaires ou territoriales. Et en fait, c'est peut-être quelque chose qu'on mesurait pas, en fait, à l'époque, alors que la Chine a très bien mesuré, par exemple, et très très vite, mais que l'Iran n'avait pas, enfin, le régime iranien n'avait pas pris en compte. Et c'est aussi une porte, hein, pour voir ce qui se passe ailleurs sur la façon de vivre hors de la dictature des Mollahs. Et d'ailleurs, merci les VPN et autres moyens de contourner la censure qui ont permis, notamment, et qui permettent à des tas de jeunes et moins jeunes dans le monde de voir et de pouvoir passer par Internet pour voir ce qui se passe en dehors des murs de leur dictature. Ce qui fait la force du mouvement actuel, bah c'est bien le fait qu'ils s'unissent, que les révolutionnaires se vivent comme cela et qu'ils se vivent comme un groupe, certes parfois avec des aspirations un peu différentes, mais avec un but commun. Et ça, c'est quelque chose de fort, en fait. Et c'est cette unité qui fait qu'ils tiennent et qu'ils tiennent aujourd'hui dans la rue. Plusieurs observatrices et observateurs ont d'ailleurs remarqué de très grands changements en Iran en quelques temps. Des femmes sans hijab qui se baladent dans la rue ne sont plus attaquées. Elles l'étaient avant, y compris par des civils. Hein. On va le rappeler, c'est pas que la police des mœurs, hein. Il y avait aussi un climat en Iran. Mais elles sont souvent applaudies et soutenues. Elles sont aujourd'hui devenues, un peu malgré elles, mais quelque part de façon positive, le symbole d'une liberté qui se lève. Il y a un téléphone qui fait du bruit, pardon. Attends, je vais le pousser, soit le mien. Excusez-moi. Pardon. Donc je disais, donc elles sont devenues le symbole, finalement, un peu malgré elles, mais elles sont aujourd'hui vues comme étant le symbole d'une liberté qui se lève. Et ça, c'est important parce que c'est des mots qu'on entend beaucoup. La cause des femmes, elle est devenue une préoccupation prioritaire dans le pays, également pour bon nombre d'hommes, ce qui est aussi une transformation très forte du pays. De la même façon, les manifestations aujourd'hui sont aujourd'hui en mixité totale, c'est-à-dire hommes et femmes mélangés, et pas dans deux cortèges séparés, mais bien mélangés. Et ça, en fait, bah, c'est assez nouveau. Et l'idée qui est derrière, c'est de faire masse. C'est-à-dire que il n'y a plus cette notion de dire les hommes vont protéger les femmes. Vous voyez, ça fait masse, quoi. On voit aussi apparaître des slogans qui soutiennent des causes comme les LGBTI+. En Iran, c'est quand même sacrément avancé. Et les minorités religieuses ou ethniques. Et d'ailleurs, il y a même des observateurs et observatrices qui ont remarqué que sur certains panneaux, il y avait y compris marqué juifs, chrétiens, assyriens, enfin toutes les religions qui existent en Iran sont citées. Alors que ben, on sait quand même que les tensions avec Israël et l'antisémitisme d'État en Iran est quelque chose de très marqué. Et donc ça parce qu'il n'y a pas que de l'antisionisme, il y a aussi de l'antisémitisme dans la propagande iranienne. Et donc en fait, les observateurs disent c'est quand même étonnant que dans la jeunesse iranienne en particulier, parce que c'est plutôt eux qui sont dans les manifs, il y a des panneaux qui sortent avec une envie, voilà, il y a même marqué, donc c'est là, il y a même athée sur les non-croyants, incroyants, voilà, et pas mécréants. Notez la nuance. Donc tout cela n'existait pas avec cette ampleur par le passé, et ça fait dire que non, ce qui se passe en Iran aujourd'hui n'a pas d'équivalent avant le 16 septembre 2022. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'essayer de recoller avec quelque chose qui s'est déjà passé. C'est nouveau. Ça a pris une forme assez vaste. Et c'est surtout, porteur d'un espoir extrêmement large, parce qu'on est vraiment face à ce qu'on appelle une révolution. En fait, une envie de transformer totalement une société. Alors évidemment, face à ça, le régime, il envoie la répression, hein. On va pas se mentir. Donc face à cette révolution, le régime iranien des Mollahs ne reste pas sans bouger. Le gouvernement s'appuie sur plusieurs corps armés, hein. Donc la police déjà, les gardiens de la révolution et les Basijis, hein, qui sont une force paramilitaire iranienne protectrice des religieux. Hein, voilà, Dieu leur suffit pas, vous avez besoin de protecteurs. Oui. Donc
c'est toujours ce qui est très drôle, c'est marrant, tous ouais. Ces gens qui veulent parler au nom d'un dieu qui serait toujours tout puissant, etc., et qui a toujours des chiens de garde, ouais, c'est quand même drôle, quoi, de se dire
Donc certaines ONG parlent aujourd'hui de 141 morts, hein, c'est notamment le cas de Human Rights Watch, voilà. Et d'autres, par contre, seraient plus près du chiffre de 350. Et certaines ONG disent que c'est de toute façon quasiment impossible aujourd'hui d'avoir des chiffres précis, mais qu'on serait à plusieurs centaines de morts. Les chiffres sont évidemment difficiles à recouper parce que ben les morts sont cachés, hein, tout simplement. Dans le même temps, elles sont des milliers à être enfermées, torturées, violées dans les prisons du régime. D'ailleurs, plusieurs observateurs disent que le viol aujourd'hui, sur les hommes comme sur les femmes, est d'ailleurs devenu l'outil de torture numéro un dans les prisons. Voilà.
Ouais, je voulais rappeler, enfin, là c'est de mémoire, j'ai pas le chiffre exact, mais je crois le dernier soulèvement c'était en 2019, un truc comme ça, je crois.
Ouais, c'est
attends, ça, plus 2019. Ouais. Mais enfin, et les morts, je crois qu'au final c'était des milliers en fait. Quoi.
Ouais, ça prend toujours du temps de recouper.
Forcément.
Parce que ben, dans un état totalitaire. Tout est fait pour tout cacher.
Hein.
Donc le régime fait aussi enlever hein, celles et ceux qui sont vus comme les leaders de la révolution, jusque dans les hôpitaux. Hein. Il y a eu plusieurs cas de personnes qui étaient dans les hôpitaux suite à soit avoir été matraquées, soit être sorties de prison après torture, donc ils se retrouvaient à l'hôpital. On les enlève, hein, on les retrouve pas. Et pourtant, en fait, ça fonctionne pas. Et c'est d'ailleurs ce qui aujourd'hui déstabilise le plus le régime, hein, c'est que quand un ou une tombe, un ou une autre se lève, voire des autres, en fait. Parce que cette révolution, elle a des méthodes proches finalement de l'anarchie, des libertaires. Pas de chef, mais un but commun. Toutes et tous ensemble, sans pouvoir, mais en décidant collectivement. Et ça, en fait, c'est assez nouveau parce que le régime, il avait l'habitude de connaître les leaders et il suffisait de tuer les leaders ou de les faire fuir ou de massacrer leur famille. Enfin, je suis désolé, amis auditeurs, c'est pas drôle ce que je raconte, mais c'est aussi la réalité.
Le réel n'est pas drôle. Hein.
Et c'est ce qui, en fait, aujourd'hui inquiète et explique sans doute le manque de soutien. De soutien qu'il peut y avoir de d'autres dictatures, vous savez, comme la Chine ou autre, qui en fait, on regarde ça de loin, en mode. On va pas trop parler.
Hein.
On va peut-être pas dire grand-chose.
On va regarder ça de loin.
Il faudrait quand même pas que ça arrive chez nous. Et d'ailleurs, je pense aussi, et là c'est à titre personnel, que c'est aussi ce qui inquiète dans les démocraties dites libérales et qui fait qu'il y a très peu de soutien à cette révolution. Parce que finalement, une révolution qui est plutôt horizontale, les États aiment pas, même les États démocratiques libéraux ont du mal à se dire qu'on pourrait se passer d'eux. Vous voyez? Donc, du coup, on sent qu'il y a une sorte de, comment dire, de réticence. Voilà, il y a une sorte de réticence à soutenir, ouvertement. Donc, et l'armée, la police et les paramilitaires se disent, eux, fatigués, hein, parce que, la révolte, elle prend pas que dans les grandes villes, mais en fait, elle prend partout dans le pays, y compris dans des petits villages, et on va les plaindre. Les pauvres d'être fatigués. Non, je déconne. On va pas les plaindre. Alors, il faut savoir que je l'avais pas écrit dans mon sujet, je l'ai lu ce matin. Donc, le régime iranien, pour pallier à la difficulté qu'il a avec la police et l'armée, envisage de faire rentrer sur son territoire, notamment, des membres du Hezbollah, pour venir suppléer, les forces militaires parce que, ils ont du mal à y arriver. Voilà. Donc on voit qu'il y a quand même une grande unité des ordures.
Donc, oui, en même temps, voilà. Hezbollah est financé par l'Iran. Donc finalement,
c'est au Liban, hein, pour ceux qui savent pas, sous le Hezbollah. Voilà.
Que au Liban ?
Oui.
Ils sont pas aussi en Palestine ?
Non, c'est le Hamas.
Ah oui, c'est le Hamas, pardon.
Donc voilà, et pourtant, hein, malgré la peur, malgré les morts, ça continue. Et des jeunes se filment faisant tomber les turbans des religieux dans la rue.
Ouais.
Voilà, c'est assez génial. Des femmes font tourner leur hijab avant de les brûler. Hein, c'est une symbolique en réalité. Des étudiants font des doigts d'honneur au portrait du guide suprême ou le retournent pour inscrire « Femme, vie, liberté » au dos et laissent le portrait retourner et laissent juste le slogan. Voilà.
Ouais, mais même une image, moi je sais plus dans quelle... C'était dans une école, alors est-ce que c'était un lycée, un collège, une université.
Oui, parce que ça va très jeune, hein.
Collèges. En tout cas, en fait, il y avait un gars, en fait, mais il se faisait dégager.
Oui, c'était dans un collège, et parce que c'est les gens qui viennent faire les cours de morale.
Ah ouais.
Et ils font partie de la police religieuse, en fait.
Et ben, comment elles l'ont dégagé, les meufs, c'était énorme, quoi. Le mec, en fait, il se prenait des bouteilles, il se prenait tout dans la gueule et il s'est barré, quoi. Et là, tu dis. Waouh, enfin c'est vraiment.
Oui,
mais
et puis surtout qu'elle risque gros à faire.
Tellement d'admiration devant tout ça et pas d'idolâtrie, hein, mais juste.
Non.
Elles sont hyper. Elles et ils sont hyper courageux, quoi.
Bah c'est ce qu'on appelle le courage.
Ouais.
Voilà. Des salariés se mettent aussi en grève et pratiquent le sabotage, ce qui est assez nouveau, mais ce qui est aussi très symptomatique, et notamment dans les usines qui fabriquent les fameux drones. que l'Iran vend à l'Ukraine, à la Russie pour bombarder les Ukrainiens. Donc on sait maintenant de façon sûre, il y a eu des sabotages dans ces usines-là. Donc il y a aussi une volonté d'affaiblir le régime et surtout d'arrêter de dire on va dans leur sens. Voilà.
Et aussi dans le secteur pétrolier. Ouais, si dans le secteur pétrolier. Mais ça date pas forcément que de ce mouvement-là. Déjà avant, il y avait quelques mouvements.
Sauf que là, il y a carrément des pipes qui ont été coupées. Okay. Il y a eu du gaz qui a été fermé. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont soudé la vanne de gaz et elle a été, je sais pas, soudée ou collée. Je ne sais pas. Je pense plus collée que soudée parce que sur un pipe, c'est peut-être pas terrible de souder. Mais en tout cas, voilà, elle a été bloquée. Il y a aussi, il y a pas mal de secteurs comme ça. Et on a aussi des vendeurs des souks. Alors les souks en Iran, c'est extrêmement important, c'est un peu l'équivalent des halles de Lyon mais en version populaire, et donc en fait ils font payer plus cher aux religieux. C'est quand ils voient arriver un religieux, ils retournent la pancarte et le prix est différent, il est plus élevé, pour offrir à manger aux manifestants avec le delta, vous voyez. Bref, en fait ça avance dans le bon sens et ça faiblit pas, et l'entraide révolutionnaire finalement se met en place et perdure, et c'est plutôt une très bonne chose. Voilà. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut un soutien, il faut soutenir cette révolution, parce que ils ont besoin d'aide, ils ont besoin aussi d'être entendus. Alors si on peut être optimiste, espérer que la révolution en Iran arrive à renverser le pouvoir en place et la religion omniprésente, il faut quand même la faire connaître et soutenir au mieux les révoltés. En France, il semble difficile pour les milieux révolutionnaires et pour la gauche d'apporter un vrai soutien à ces femmes et ces hommes qui cherchent juste à respirer et vivre mieux. Tout simplement. Comme si, parce que cette révolution ne répond pas au schéma préétabli dans des jolis livres reliés, ils ne savaient pas voir que c'est bien une révolution qui se joue là, sous nos yeux en fait, concrètement. Alors oui, il faut évidemment participer au rassemblement prévu en soutien, c'est important, et prévu pour soutenir les manifestations ici quand on le peut. Parce que les images, en fait, elles arrivent là-bas, et ça fait du bien de voir qu'on n'est pas seul. Quand ils voient que à Lyon, Stockholm, Berlin, en fait, les gens manifestent en disant bye bye dictator, parce que c'est important. En fait, ça a l'air bête, mais c'est important. Il faut aider aussi les associations, les militantes et militants qui peuvent faire entrer de l'argent là-bas. Parce que c'est devenu le nerf de la guerre, hein, pour tenir aussi, parce qu'il va falloir acheter à manger, parce que peut-être qu'il faudra acheter autre chose et qu'on n'a pas le choix. Voilà. Peut-être devons-nous aussi nous organiser pour faire venir ici des dissidentes et dissidents qui seraient en demande en cas de risque trop élevé. Et comme le dirait Goldman, Jean-Jacques, pas Emma, s'il faut, on utilisera même des moyens légaux. Mmh. Voilà. Mais au-delà de tout ça, il nous faut prendre conscience que oui, une révolution, c'est long. Oui, ça fait des morts parfois. Oui, cela est rude. Mais c'est aussi porteur d'espoir, d'avenir plus radieux et de vie plus libre. C'est surtout ça qui est pas... Et comme le disait Goldman, alors Emma, cette fois, hein, pas Jean-Jacques.
Voilà. C'est pas croyable.
Ben oui. Je crois, ou plutôt je sais, alors je cite, c'est Emma Goldman qui parle. Je crois, ou plutôt je sais, que tout ce qui est bon et beau dans l'être humain se manifeste en dépit du gouvernement et non grâce à lui. Voilà. Donc, moi, je voulais juste parler de l'Iran, je l'ai fait. Et j'ajouterai juste une toute petite chose. Femme, vie et liberté.
C'est ça. Ben oui, et puis je me dis aussi, en fait, si on retombe dans le binarisme que porte une partie de la gauche quand même, et de simplisme, en fait, je pense qu'il y en a qui ne veulent pas y aller parce que le hijab est mis en avant, etc. Mais en fait, déjà, complexifier la situation comme elle l'est, parce qu'en Iran, ce n'est pas que le hijab qui est dénoncé, mais aussi le hijab.
En fait, il faut discuter avec... moi, j'ai eu la chance, je suis allé à la manif de samedi, j'ai eu la chance de discuter avec des Iraniennes, notamment. Et en fait, elles expliquent qu'elles voudraient juste déjà arriver à ce qu'il y a en France. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'obligation de porter ou pas, mais de pouvoir le porter si on souhaite le porter. Et de ne pas rentrer dans une espèce de truc où elles disent un tout ou rien, parce qu'elles disent de toute façon, ça ne marchera pas. Elles savent bien que c'est pas ça, mais que si déjà on avait cette étape-là, comme elles disent, on aurait déjà fait un grand pas.
Oui, oui, mais ce qui fait que je pense qu'il y a une partie de la gauche qui, dès que potentiellement quelque chose peut être récupéré par une extrême droite, c'est-à-dire que l'extrême droite peut tout récupérer, hein, pour preuve aujourd'hui elle récupère le mouvement, on va dire, ou en tout cas les voix de travailleurs et de travailleuses, alors que l'extrême droite est l'ennemi des exploités quand même, faut pas. Donc en fait, si on va sur ce terrain-là, on va toujours tout lâcher à l'extrême droite en fait. Et je ne pense pas les Iraniens et les Iraniennes idiots, ni idiotes en fait, et que je pense qu'elles sont capables de se dire qu'elles veulent pas faire le jeu de l'extrême droite.
Eh ben,
mais
faut les écouter.
Pour l'instant en Iran, en tout cas, pour l'instant en Iran, c'est l'extrême droite qui est au pouvoir.
Oui,
ça s'appelle une démocratie. L'extrême droite est au pouvoir, en fait. Donc il y a des gens qui se soulèvent contre l'extrême droite. Donc il faut soutenir, en fait.
Les conservateurs, ils sont au pouvoir en Iran, et c'est eux qui le tiennent. Et encore une fois, moi je le dis, écoutez les gens qui font les rassemblements. Moi j'y étais samedi à Lyon, trois fois, la parole a été prise pour rappeler que le contexte iranien n'est pas le contexte français. qu'il savait qu'en France, il y avait une forme d'islamophobie, de haine de l'islam, qui était entretenue notamment par l'extrême droite, mais qu'il n'était pas du tout d'accord pour que la révolution iranienne soit récupérée par cette frange-là, et qu'il ne sait pas du tout ce qu'ils défendent. Et d'ailleurs, ils l'ont réexpliqué en long, large et en travers. Ils ont expliqué, alors ça fait grincer des dents à certaines personnes, j'en ai conscience, que la laïcité qui nous paraît parfois peut-être trop, pas assez, enfin, vous mettez ce que vous voulez, eux, ils aimeraient déjà arriver à une forme de séparatisme du religieux et du pouvoir. Et ça s'entend. C'est-à-dire qu'en fait, oui, les contextes sont différents, mais en fait, ce qu'il faut surtout voir, c'est que là, on a un contexte qui est au-delà du religieux, comme tu le disais, qui concerne aussi l'économique, qui concerne aussi la haine ethnique qui était entretenue,
ouais,
qui concerne plein de trucs, les libertés individuelles. Et donc, du coup, c'est là qu'on voit qu'on a vraiment, en face de nous, un peuple qui cherche à faire une révolution, à transformer sa société totalement. Et donc, à ce moment-là, eh ben, c'est un peu maladroit, je trouve, de pas y mettre les doigts sous prétexte qu'il y a 2-3 trucs qui pourraient nous déranger, sous prétexte qu'il y a 2-3 choses avec lesquelles qu'on comprend pas parce qu'on n'a pas le contexte ou des choses comme ça. Non, en fait, il y a du soutien à apporter parce que, ben, une révolution, c'est dur à faire. Et surtout, c'est des gens qui aujourd'hui sont face à un des régimes les plus autoritaires et les plus violents de la planète. Mmh. Voilà.
Et ben voilà, donc une pensée pour les Iraniens et les Iraniennes.
Ouais.
Et puis, ben, on
va écouter une super musique.
Allons-y.
برای توی کوچه رخصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیعصر و درختای فرسوده برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگهای بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوقفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای آینده برای این بهشت اجباری برای نخبه های زندانی برای کودکان افغانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعارهای تو خالی برای آوار خونه های پوشالی برای احساس آرامش برای خورشید پس از شبای طولانی برای غرصای اعصاب و بیخوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزادی برای آزادی
Voilà, vous êtes de retour dans la causerie au centre de sur radiocanu.org et je salue au passage, parce qu'elle vient de m'envoyer un petit message marmar, qui m'a dit « c'est bien qu'on parle des fois de l'Iran, ça fait du bien ». Donc voilà, je... Ouais.
Et sinon... Ouais. Viens en parler,
mais oui, c'est ce que je lui ai dit. Voilà. Et donc du coup, juste, on vient d'écouter Shervin Arjipour, donc avec Barayé. Barayé, ça veut dire parce que. Et en fait, sa chanson, au départ, il l'a fait sur Instagram et il reprend en fait des tweets des manifestants à qui quelqu'un avait dit pourquoi tu manifestes, et il répondait parce que. Et donc à chaque fois que vous entendez Barayé, c'est parce que. Et donc, bah, c'est parce que je veux l'égalité entre mes femmes, parce que je veux pas que la planète, enfin que l'Iran disparaisse. Que la nature disparaisse en Iran, parce que je veux que chacun puisse vivre libre comme il le souhaite, parce que. Et en fait, cette chanson, il l'a chantée c'était en hommage juste après le décès. Et il a été arrêté, il a été torturé, l'ont sorti de prison. Il a eu des aveux forcés, c'est-à-dire qu'en fait, on l'a forcé à faire des aveux qui sont complètement incompréhensibles pour ceux qui ont vu la vidéo. Et surtout, le régime a récupéré sa chanson et a recollé des images en disant les grandes avancées qu'ils avaient faites. Vous voyez, donc en répondant aux manifestants, en disant « Mais oui, mais regardez, c'est nous ». Bon, autant vous dire que ça n'a pas marché, vu que cette chanson est devenue l'hymne, un des hymnes de cette révolution, et qu'elle est chantée en chœur. Et pour ceux qui ont eu la chance de l'entendre chanter en chœur, c'est très beau. Voilà.
C'est marrant, enfin c'est marrant non, mais c'est, je pense à l'Iran, au Soudan, ça se fait beaucoup dans la musique en fait. Ouais. Ça change vachement de on est là, on est là. C'est marrant, c'est culturel quoi.
C'est pas la même musique.
En France, on a Yvette Horner.
Mais peut-être. Tu sais pourquoi? C'est parce que je pense qu'on n'a plus les moyens de payer des cours de musique à tout le monde. Et ça, je pense que c'est parce que c'est par rapport à ce que tu vas nous parler.
C'est tout à fait ça, ouais, évidemment. c'est n'importe quoi.
Oui, mais je savais pas comment faire une transition.
Ok, ben laisse-moi faire la prochaine fois.
Je pense que je peux.
Ouais, c'est déjà beaucoup, voire de trop.
C'est pas ton soir.
C'est carrément ça.
J'ai quand même deux blagues qui sont là quand même.
Oui.
Pardon. Excusez-nous, on parlait de choses
Merci
pas très joyeuses.
Merci à toi. Joyeuses. Bonne soirée. Voilà. À bientôt.
Je vais y aller. Salut. Bon, pas de choses pas très joyeuses. Non. Bon, pardon, on décompresse un peu.
Mais
bon.
Oui, il faut. C'est comme ça.
Vas-y.
Alors, alors une petite info qui date du début octobre, à savoir un rapport scientifique réalisé par le Centre Lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques. Et l'Institut de recherche économique et sociale pour les syndicats à l'initiative de la CGT. L'intitulé de ce rapport, c'est « Un capitalisme sous perfusion, mesures, théories et effets macroéconomiques des aides publiques aux entreprises françaises ». Ça jette. Cette étude, d'un peu moins de 200 pages, disponible, je propose à mes compagnons et compagnonnes d'émission qu'on le mette peut-être sur le blog de l'émission.
Ah, tu veux pas nous les lire là maintenant ?
200 pages, j'espère que vous avez beaucoup de temps parce que c'est long et c'est complexe. Il vaut mieux l'avoir devant soi parce qu'il y a plein de graphiques, etc. Faut prendre du temps, quoi. Donc en fait, ces 200 pages, en fait, cette étude, revient en fait sur les politiques, les systèmes d'aide aux entreprises et se compose en quatre grosses partie, elle-même divisée en sous-points, on va dire, en différents points. Alors ça commence par l'analyse des politiques actuelles, donc à savoir quand même environ 2000 dispositifs d'aide aux entreprises. Et il est à noter d'ailleurs qu'il a été difficile en fait de faire le total des aides, des dispositifs, vu que certaines ne sont plus vues comme des aides ou des dispositifs spécifiques. Donc c'est...
Ah oui, c'est à force d'être utilisé,
c'est devenu une forme d'habitude en fait. Quoi. Ouais. Donc ensuite, c'est autour du coût du travail et des aides aux entreprises, puis sont passées en revue les aides de l'État dites à l'innovation des entreprises. Et enfin, les conclusions de la dite étude. Je vais évidemment pas, comme tu le proposais, détailler ici les 190 pages, mais simplement essayer de rappeler l'ampleur de ces aides, en fait. Alors, il a noté que l'étude a été réalisée avec les chiffres d'avant la crise du Covid. Donc, avant de nouveaux milliards d'aides aux entreprises, avant le quoi qu'il en coûte. Et il sort donc de cette étude que les aides aux entreprises en France représentent 157 milliards d'euros.
Ça en fait des cols roulés.
Oui, ça en fait. Et des doudounes. et 157 milliards qui passent par l'allègement, voire l'exonération de cotisations sociales et aussi de niches fiscales.
Je ne suis pas très, très, très doué en économie, mais il me semble que ça fait beaucoup d'argent. Non, mais par rapport au budget de l'État.
C'était le point suivant. C'est 157 milliards, c'est environ 30% du budget de l'État.
C'est énorme, quoi. C'est le premier poste. En gros, c'est le premier poste de dépense.
Oui.
C'est devant l'armée même.
Oui.
C'est dingue.
Non, c'est balèze.
Ouais, quand même.
Mais
ouais.
C'est normal.
C'est normal. C'est normal.
Tout est normal.
Tout va bien.
Ah, c'est ça. Tout va bien jusque-là. Alors, qu'on se le dise de suite, dire que tout est de la faute à Macron et son monde serait un gros raccourci que je ne ferais pas ici et qui d'ailleurs n'est pas fait non plus dans le rapport, en fait. Parce que le réel, en fait, là encore une fois, est plus complexe que tout s'est fait ces dernières années, quoi.
Mais je crois que les premières aides aux entreprises, ça date de 47 ou 48. Donc,
je suis pas remonté aussi loin.
Mais il me semble de mémoire, donc on imagine bien que Macron n'était pas né.
Non, c'est ça en fait.
C'est
donc comme je vous disais, le réel est plus complexe et Enfin, du moins, oui, comme tu le disais, en fait, cette idéologie de gavage des entreprises n'est pas née avec Macron, hein, et il a évidemment contribué à le perpétuer et à l'augmenter. Pas de problème. Ce sont, que voulez-vous, l'amour des libéraux pour les entreprises n'a pas de limite et n'a pas d'âge. Alors, en effet, hein, oui, quoi.
C'est le n'a pas d'âge qui m'a
oui.
fait.
En effet, hein, si en 1980, les aides aux entreprises représentaient que, entre parenthèses, 10 milliards, on passe à 35 milliards dans les années 90.
En euros, hein, euros constants. Hein.
Ouais. Plus de 50 milliards au début des années 2000, pour atteindre 20 ans plus tard 157 milliards d'euros.
C'est un x3 en 20 ans.
Ouais, c'est ça.
C'est énorme.
Et en 40 ans, c'est un x15.
Ouais, c'est énorme.
Ouais, c'est pas mal.
Non, mais ça, parce qu'on dit ça avec un peu d'humour, parce qu'on essaye aussi de déconner un peu. Parce que sinon, je pense qu'on. Voilà. Mais est-ce qu'on peut imaginer juste comme ça, ce que ça voudrait dire si on parlait de vos salaires?
Je me suis pas amusé à ça, mais faites-le.
Oui, c'est-à-dire que ça voudrait dire que votre salaire aurait été multiplié par 15.
Oui.
Voilà, en x 15.
Ah oui, x 15.
Et,
ouais.
et on arrive à imaginer ce que ça fait x 15.
C'est parce que c'est pas votre cas?
Ah bah non.
Mais
non,
alors, j'ai envie de dire, je pense que vous avez raté vos vies. Hein. Moi, je dis ça comme ça. En plus, je vois que vous n'avez même pas de Rolex au poignet.
J'ai encore 5 ans pour en
c'est
acheter.
C'est quoi cette émission?
En fait, quand on parle de gros chiffres en milliards, c'est normal, on a du mal à imaginer les milliards.
Ah bah 157 milliards, ouais,
Par contre, ce qu'on peut voir, c'est ce que sont les bons. C'est-à-dire, quand on dit fois tant. En fait, c'est simple, hein, si vous prenez vos revenus, vous dites, si je gagnais 15 fois ça, voilà, et on voit un peu l'écart que ça peut faire.
Je serais pas à plaindre aujourd'hui, je crois.
Non, c'est ça. Et ça veut dire que les entreprises ont eu 15 fois plus d'aides versées.
En 40
piges. Et rassure-moi, c'est que les petites, c'est pas les multinationales qui touchent ça quand même.
Laisse-moi venir, grand fou. Dans les dispositifs d'aide, on peut évidemment évoquer le CICE, Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Retenez bien ce mot. Et l'emploi. Pour exemple, en 2016, j'ai oublié un dans mon papier. Pardon. En 2016.
Il est fatigué ce soir, faut pas lui en vouloir.
En 2016, on évoquait le chiffre de 100 000 emplois créés pour un coût de 18 milliards d'euros. Ça fait quand même, j'ai calculé là, 180 000 euros l'emploi. Hyper efficace, non? Vous trouvez pas?
C'est aberrant.
Moi, tu me files 180 000 dollars, moi je suis content. Mais
pourquoi dollars? C'est bizarre.
Mais parce que dès que tu dis dollars, ça donne une autre
chose. C'est aberrant quand on réfléchit.
Ah ben oui.
Non, mais même d'un point de vue, comme on dit, macroéconomique, tu vois, d'imaginer. C'est-à-dire qu'on est quand même là face à des gouvernants qui après vont aller faire la chasse aux gens qui toucheraient 525 euros de RSA indu, vous voyez, et que ce serait une énorme fuite, vous voyez, et là les mecs ils ont balancé non, vas-y, je te balance 18 milliards, tu me fais quelques emplois.
Ouais, c'est ça,
c'est
énorme.
C'est un truc de dingue, hein.
Et justement, en fait, une des choses en fait pointées par l'étude, et évidemment pas que par l'étude, mais là c'est on va dire plus matériellement démontré, en fait, c'est l'absence de cadre, en fait, d'objectif pour le patronat. C'est-à-dire que ce soit en termes d'emploi, d'écologie, etc. En fait, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on leur dit tenez, on vous a fait un chèque.
Oui.
Vous faites ce que vous en voulez. Alors certains, se font des repas à 1000 euros par personne que Laurent Wauquiez. Mais, je déconne, c'est pas en lien. Mais Laurent Wauquiez a fait des repas à 1000 euros par personne.
Oui, c'est vrai. Avec des grands patrons.
Avec des grands
au passage.
C'est finalement pas si perdu que ça, tous ces investissements.
Ouais, c'est de l'investissement.
Ah là là.
Mais moi, je peux en témoigner. Je travaille pour une entreprise qui touche du CICE. Et en fait, quand vous demandez.
Une petite PME, je crois.
Toute petite
un
PME,
boulanger du coin, quoi.
Un petit boulanger.
Ouais.
Quand vous demandez dans les instances pourquoi on touche le CICE et qu'est-ce qu'on en a fait, on vous répond. Voilà. Donc en gros, je vous jure qu'en fait, même en interne, il se cache pas du fait que il le touche.
Ah mais oui, il s'en tape parce que finalement, vu que celui qui fait le chèque ne demande aucune preuve de rien, en fait, eux ils prennent la thune qu'on leur donne, ils
dingue.
Se disent c'est cool, merci, et on repassera. Donc pardon, je vais essayer de reprendre un peu de sérieux. Il est donc assez amusant quand même de voir que les mêmes gouvernants actuels et précédents, moi encore une fois, je vais pas m'arrêter à celui d'aujourd'hui. Ceux d'avant étaient beaucoup pas mieux. Donc voilà. Donc dans leur grande majorité, quand même, tous et toutes voudraient nous faire bosser plus longtemps. voudraient qu'on se tue encore plus au travail, en raison d'un déficit du système de retraite de 15 milliards dans 10 ans. 15 milliards ! 15 milliards dans 10 ans.
Et je rappelle que c'est un déficit, on avait fait une émission dessus, qui est transitoire, c'est-à-dire qui ne durera pas.
C'est ça. Donc 15 milliards dans 10 ans, bah en fait c'est juste un dixième des aides aux entreprises qu'elles touchent en un an. C'est bizarre, moi ma calculette interne elle a bugué, elle s'est dit tiens là il y a quelque chose qui va pas. Le calcul n'est pas bon.
C'est parce que t'es pas assez libéral.
C'est ça.
Économiquement parlant.
Moi non plus j'aurais pas ma Rolex. Ah oh, les boules. Alors enfin bon bref, comme quoi, et comme le disait justement Fab il y a peu dans une causerie au sujet de la casse des entreprises, nous sommes bien là en fait dans des décisions idéologiques. Il n'y a pas d'autre mot, politique, idéologique. Alors évidemment, hein, moi aussi mon propos il est idéologique, politique, et je l'assume comme tel, pleinement, pas de souci. Mais à l'inverse des gouvernants, en fait, je joue pas dans l'émotion à dire que il y a pas le choix. Il en va de la survie de notre système social qui nous tient tant à cœur. Non, en fait, eux, ils veulent juste nous exploiter, enfin exploiter une majorité au profit d'une minorité, en fait. Hein. Et c'est pour ça qu'ils nous font sortir les violons, etc., pleurer pour mamie qui crève dans les EHPAD parce qu'il y aurait pas de moyens. Non, c'est vrai, c'est démontré. Il y a vraiment pas de moyens. Alors je me disais. Qui serait quand même intéressant qu'en plus de ces 157 milliards d'aides aux entreprises annuelles, hein, on se le rappelle.
D'ailleurs, on peut le dire autrement, c'est qu'en 10 ans, il y a 1570 milliards.
On peut aller dans ces excès là, effectivement.
C'est-à-dire que c'est la dette.
Oui, ah, mais oui.
C'est le montant de la dette en France.
C'est ça. Alors, d'ailleurs, il est aussi à noter quand même hein, que la plus de la moitié de ces aides vont aux grandes entreprises. Aux multinationales, aux boîtes du CAC 40, des vraies entreprises dans le besoin. Je vais vous citer 2-3 noms. Là, je sens
non,
que.
Monsieur Jean-Yves, je vous arrête tout de suite, monsieur Jean-Yves, parce que là, vous allez faire de la démagogie.
Ouais.
C'est pas bien de donner les noms des gens qui touchent de l'argent qu'ils n'auraient pas besoin de toucher.
C'est vrai. Attention, sortez vos mouchoirs, je vais se donner 2-3 noms d'entreprises qui ont besoin de toutes ces aides. Total.
Ah bah, c'est bien connu.
Ouais. Sanofi.
Évidemment.
Et les autres, je vous laisse chercher, mais vous voyez, on est vraiment dans les boîtes miséreuses.
Thalès, hein. Dassault, Saint-Gobain.
Ouais, que des boîtes où ça va mal. Et donc, je me suis dit, aux 157 milliards, bah, je trouvais important de ne pas oublier d'autres chiffres en fait, qui s'additionnent et qui dessinent quelque chose là aussi de très intéressant. Comme par exemple, les entre 80 et 100 milliards d'évasion fiscale par an. Et oh, attention, scoop! Ce ne sont pas les chômeurs qui fuient fiscalement.
Non, sans déconner.
Ouais, moi je vous dis ça, prenez le temps, prenez du recul, réfléchissez.
Moi, je comprends pas parce que moi j'ai vu un gars ouais. À la télé qui portait un col roulé.
Ah ouais, je vois qui tu parles.
Bruno L.
Oui.
Donc, et il a bien expliqué que le grand problème de la France aujourd'hui, c'était ces chômeurs qui quand même touchaient parfois des trucs qu'ils n'avaient pas le droit et qui en plus optimisaient leur chômage.
Ah, c'est vrai que tu peux vachement optimiser le chômage quand tu te places au Luxembourg.
Voilà, mais, voilà, c'est là qu'on voit l'aberration et à quel point c'est du détournement d'attention que tous ces trucs-là.
C'est ça. Et donc, je me suis dit, tiens, on peut aussi parler des plus de 50 milliards de dividendes versés aux actionnaires en 2019.
Ouais, mais alors attends, là, moi, tu sais comment c'est dur d'être rentier.
Oui, c'est vrai.
Parce que tu te lèves le matin, tu allumes Bloomberg TV. Oui, parce qu'ils regardent Bloomberg TV, ouais. Les rentiers.
Tu lis les échos.
Tu regardes si t'as perdu ou pas de l'argent aujourd'hui, ouais. Mais tu sais que t'en as pas perdu. Mais quand même, tu te rassures. Et après, faut quand même que t'ailles dans ton jacuzzi pour prendre un bain, que tu prennes ton jet privé parce que tu peux pas respirer à Paris. Il faut que t'ailles respirer à Megève et que derrière, et de Megève, il faut que t'ailles à Ouarzazate.
Non, je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment trop de peine pour ces gens.
Mais ouais, t'es là, les fustiger à la radio.
Ouais,
c'est honteux.
Une larme pour le CAC 40 et tous les gros bourgeois. Et donc, quand même, comme les 157 milliards, hein, les derniers chiffres que je vous ai donnés ne concernent que la France.
Ben hein. Oui.
Là, je suis vraiment en mode franco-français.
Alors, on va quand même préciser quelque chose, c'est que, je vais le dire plutôt, ce rapport en fait qui a été fait en France, il a aussi été fait dans d'autres pays européens, et les chiffres dans les pays équivalents, c'est-à-dire France, Allemagne, par exemple, Espagne, Italie, sont à peu près les mêmes. Donc je vous laisse à peu près faire le calcul de ce que se mettent dans la poche les multinationales dans ces différents pays.
C'est ça. Et alors quand on vous dit c'est de la faute des chômeurs qu'il n'y a pas des moyens pour l'école, les hôpitaux, les retraites, les réfugiés. Et rappelez-vous juste de ces chiffres. 157, plus 80, plus 50. On est aux environs 287 milliards d'euros par an, au bas mot, pour la classe possédante.
Plus que ça, parce que 157 plus 80, c'est plus que 287.
Bah non.
Ah ouais ?
Oh là là, il fait pas des bonnes blagues, et en plus il sait pas compter. Non, je pense que vraiment il est l'heure que
tu rentres. Je suis perdu dans tes chiffres, je crois.
Bah, 157 plus 50, 207.
207.
Plus 80.
287.
Bravo.
Ah oui.
287 milliards d'euros.
187, pardon.
Donc, par an, au bas mot, pour la classe possédante qui en a fortement besoin.
Des fois, aux États-Unis, c'est Obama. C'est pas Obama.
Oh là là.
J'avais prévu que j'en ferais troisième. Allez, continue.
La prochaine fois, je lui sabote son sujet. Je te
là, c'est fini.
Je te coupe le micro. Appelez la censure.
Ça y est, c'est fini.
Appelez la censure.
Non, non, mais blague à part, c'est ce qui est quand même.
Ah, mais il continue de parler.
Non, 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 mais pardon. Ce qui est quand même fou dans les chiffres que tu donnes, c'est d'imaginer. Parce qu'on a du mal à imaginer ce que ça.
Ah non, mais oui, 287 milliards par an, j'ai du mal.
Ben ouais, alors en fait, il faut ramener ça un petit peu au budget de l'État, c'est-à-dire ce qui est dépensé par l'État. Et ça veut dire qu'en gros, ça fait quasiment. Quasiment le budget de l'État.
Je crois que le budget de l'État, c'est autour des 400 milliards.
Ouais, donc c'est deux tiers du budget de l'État. C'est énorme quand même. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas d'argent pour ci, et on dilapide du pognon pour des entreprises qui n'en ont pas du tout besoin, quoi.
C'est pour ça que je disais, rappelez-vous de ces chiffres.
Ouais, c'est clair.
Mais c'est bien de faire de la redite. Bref, l'État et ses petits toutous, que certains et certaines aiment à élire, c'est comme ça, est et sera toujours, selon moi, bien évidemment, au service du capitalisme et des possédants, des actionnaires, du grand patronat. Et face à cela, en fait, il n'y a que la conscientisation en fait, de cette réalité qui peut fonctionner. Il n'y a que la mobilisation du plus grand nombre face à ces injustices, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, ce sont des injustices, qui permettra des réponses à la hauteur du mépris et de notre exploitation. D'ailleurs, il est aussi assez amusant que tous ces adorateurs du, entre guillemets, libre-échange, de la, entre guillemets, concurrence libre et non faussée, ou encore de la main invisible du marché, accepte si facilement l'argent de l'État. Comme quoi, en fait, il aime l'État, en fait. Tant que celui-ci, en même temps, c'est ce qu'il est depuis le départ, tant qu'il est bon et protecteur de leurs intérêts, l'État, c'est cool pour le patronat et pour les possédants. C'est peut-être à se demander s'il est vraiment pour nous, en fait, l'État. Alors, abattre le capitalisme, évidemment, ne suffira pas. Ça serait trop simple, trop facile, comme on peut régulièrement le dire, évidemment. Mais l'État, en tant que bras droit de celui-ci, devra certainement aussi faire partie des structures à défaire. Je n'ai pas dit d'autres mots, défaire.
Non, parce qu'après, il y a Monsieur D qui va dire « Ouh lolo, on va vous dissoudre ».
Oui, c'est à lui que je pense, là. Géraldinou, si tu nous écoutes, ou tous ces petits toutous qui aiment les caresses du maître. Enfin bref, comme toutes les structures de concentration de pouvoir, il y a le capitalisme, l'État et plein d'autres structures, mais tout ça, en fait, c'est juste aussi, à un moment donné, se dire que... interroger plein de choses. Parce que en faisant le sujet, je m'amusais à aller sur différents sites, etc. Je voyais des insoumis qui étaient aussi... En même temps, je me dis, tiens, c'est marrant, parce que les insoumis, quand même, bon, ils veulent l'État, ils veulent le pouvoir... ils feront sûrement 2-3 mesurettes de gauche, faut pas. Mais bon, ils retourneront pas la machine d'exploitation. À gauche, on aime beaucoup le travail, donc l'exploitation. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça. Le patriarcat a de longue vie aussi devant lui, le racisme, etc. Enfin, donc c'est toutes ces structures-là. Alors il y a des structures qui sont plus réelles. Plus diffuses, et d'autres qui sont des structures vraiment plus établies, l'État, le capitalisme, etc. etc. Donc voilà, c'était une petite réflexion comme ça. Alors bon, évidemment, vous pourrez me traiter d'idéologue, ce n'est pas grave.
Idéologue !
Je vous dirais juste d'aller oser le dire aussi à ceux qui vous gouvernent et que vous avez peut-être élus, parce que c'est la même chose.
Ouais, moi je voulais donner un exemple de justement ce qui vient dans la langue et qui, moi, m'a hérissé le poil. Ces derniers temps, en fait, on parle de taxer les super-profits, d'accord ? Ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'en fait, on a entériné dans une seule phrase le fait que les profits habituels, c'est-à-dire les milliards d'euros de profits habituels, sont normaux. Donc en fait, en une phrase, vous venez de normaliser le fait que l'exploitation de milliers et de milliers de travailleurs et travailleuses dans le monde, qui donnent des profits qui vont dans la poche des actionnaires en grande majorité et des possédants en grande majorité, sont légitimes, vu que la seule chose qu'il faut taxer, c'est les super profits. C'est-à-dire les profits... Ah non, les profits touche riches, bon, hein, mais les super profits. Là, on voit la sémantique à quel point on s'enfonce finalement dans une logique qui est aberrante, parce que ou alors du moins qui est consentie. Et c'est là où moi je suis gêné aux entournures, alors gêné pas personnellement, mais c'est de voir plein de copains et copines qui militent dans des partis de gauche, dans la NUP, NUPES, appelez ça comme vous voulez, aujourd'hui, et quand je leur dis, mais pourquoi tu me parles juste des super profits? Parce qu'il y a des multinationales qui chaque année font 10, 12, 14, 15, 16 milliards de bénéfices, qui font donc des profits, dans laquelle la part de la valeur ajoutée et la part de la plus-value du salaire dans ces deux choses-là a diminué comme c'est pas permis, et donc en fait où tout va aux possédants et donc aux actionnaires, pourquoi ça te choque plus? Et là, ils me disent, mais si, ça me choque, bah non, vu que tu veux taxer que les super profits. Non, il faut revenir à la base, c'est-à-dire que déjà, les profits, les bénéfices, ça devrait déjà être que pour le réinvestissement, ça devrait pas être pour faire vivre des rentiers, il faut revenir à ces choses-là. Et tant qu'en fait, on continue à parler avec des notions de super profits, de choses comme ça, eh ben, on fait en sorte de ne pas trop toucher à l'édifice.
Mais oui, mais en même temps, moi, je peux comprendre le désarroi d'une partie de militantes de gauche. C'est-à-dire qu'ils veulent militer pour quoi, en fait? Pour le communisme? Alors moi, le communisme, en fait, autoritaire, il peut aller se faire foutre, en fait, hein, c'est du capitalisme de l'État. Je pense que dans tout ça, il y a aussi, en fait...
Il y a une perte de repères, en fait.
Mais c'est surtout, de toute façon, vu le reste qui a été tenté, que ça a donné que de la merde, on va falloir se faire au capitalisme, en fait. Et je trouve que c'est dommage, parce que il y a une perte d'imaginaire, en fait. Mais
la réappropriation des moyens de production, le fait de pouvoir produire selon les besoins et pas selon les normes de l'offre et de la demande.
L'anarchie, le fédéralisme libertaire,
oui, tout à fait.
L'autogestion, organiser les choses selon les besoins et pas pour créer du profit, enfin. Oui, mais là, ça veut dire que si on veut aller sur cette piste, je vois Clara qui commence à fatiguer, on va bientôt couper. mais si on veut aller vers ça veut dire qu'il faut réinterroger aussi toutes les choses, comme le pouvoir. Oui. Interroger le pouvoir en faisant campagne pour un ou une candidate qui va vouloir le pouvoir, c'est compliqué, en fait.
Non, on est bien d'accord.
Donc c'est aussi toute cette, je pense, ce regard un peu dans le rétro qu'il faudrait faire et se dire, bon, en fait, on a tenté des trucs, ça marche pas, les gauches de pouvoir font de la merde, les systèmes idéalisés comme le communisme, ça donne de la merde. Alors, j'entends déjà des communistes qui me disent, mais non, c'est pas du communisme. Oui, bon, allez expliquer ça à plein de gens qui le subissent et qui l'ont subi, on en reparlera.
Est-ce que tu me dis, fais rebondir sur une chose, c'est que le libéralisme dont on parle aujourd'hui n'est pas du libéralisme. Justement, le fait que l'État vienne renflouer n'est pas du libéralisme.
Non.
Et d'ailleurs, quand vous discutez avec des vrais libéraux économiques, c'est-à-dire des gens qui croient à la théorie d'Adam Smith, qui vous dites en fait non, voilà, et eux ils sont horrifiés en disant mais c'est pas possible, les boîtes elles touchent des subventions de tous les côtés, mais normalement on devrait être autonome, c'est ça la liberté, vous voyez. Donc c'est marrant, c'est que même les mots là ont été transformés parce qu'en fait on n'est pas dans un libéralisme au sens où, et je conchis cette idéologie-là, mais on n'est pas dans un libéralisme réel. Et oui, même quand vous parlez avec des vrais libéraux, ceux qui sont les tenants, en fait, d'une séparation totale avec l'État, le fait que l'économie doit s'autoréguler seule, que l'on ne doit jamais être aidé, tout ça, en fait, vous dites, non, mais là, ce qu'on vit, c'est presque du communisme. Vous voyez, donc
ça, c'est, voilà. Je me dis, ces élèves de Smith, ils doivent être très peu nombreux, en fait.
Il y en a très peu, mais il y en a quelques-uns, quand même.
Parce que même quand on regarde d'autres courants, en fait, ils aiment toujours quand même un petit peu l'État. Et,
ils aiment l'armée et la police.
Oui,
parce
ça.
Que ça évite que les travailleurs se révoltent trop.
C'est ça. Bon, bah allez, on passe à la musique parce qu'on a... on est beaucoup en retard. On y va.
Change my heart into sand. We are not made.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et de La Causerie, plus particulièrement comme tous les dimanches à partir de 22h jusqu'à 23h et quelques petites boîtes de minutes. Et on vient de s'écouter un tout nouveau titre de Daman en compagnie d'Abstracker, et le titre c'est Money. Vous l'aurez compris.
Ça parle de pognon.
Money, money. Oui, c'est tout à fait ça. On va se quitter par deux, trois, avec deux, trois petites brèves très courtes.
Juste une, déjà, de mon côté. Après, toi, t'en as une du tien, mais ça se, voilà. Donc, c'est, les prochains rendez-vous du squat autogéré, le Casdal. Alors, le Casdal, c'est un immeuble laissé à l'abandon depuis des années, qui est occupé depuis le 21 septembre 2022, afin d'en faire un lieu de solidarité et d'activité. Il est donc ouvert à toute personne, à toutes les personnes qui veulent se rencontrer et s'organiser collectivement, et donc que chacun peut venir proposer ses idées. Et les assemblées, elles se tiennent les 1er et 3e vendredi du mois, donc c'est-à-dire vendredi prochain. Voilà. Et c'est à partir de 18h30 au Casdal, 221 rue de Créqui, dans le 3e. C'est à 2 minutes à pied du métro B, place Guichard, et du tram T1, palais de justice. Voilà. Et donc, il ne faut pas hésiter à venir pour savoir aussi les projets qui sont en cours et proposer des idées pour de nouveaux projets. Voilà.
Ok, très bien. Et moi, après, en fait, c'est parce que c'est au théâtre, de la Croix-Rousse, si je ne me plante pas, ouais, c'est ça. C'est le Festiviel. Alors, c'est du vendredi 4 au dimanche 6 novembre, donc au théâtre de la Croix-Rousse. Alors, c'est Festiviel et Université d'automne du mouvement HF. Et en fait, c'est plein de... Alors, il y a des spectacles, il y a du karaoké, il y a des performances, il y a des débats, etc., autour d'auteurs, d'autrices. Il y a aussi autour de l'artivisme, le boutithérapie. Enfin bref, il y a plein de choses qui se passent et autour du féminisme, des féminismes, et aussi des constructions de genre, etc., etc. Donc c'est du vendredi 4 novembre au dimanche 6 novembre au théâtre de la Croix-Rouge. Je vous laisse évidemment vous balader sur les réseaux pour découvrir un peu tout ce qui pourrait
le
vous parler. Voilà, c'est tout à fait ça. Et vite fait, il y a aussi le festival, alors on vous l'annoncera encore la semaine prochaine, mais il y a le festival Briser le silence de l'association Filaction qui commence le 12 novembre, si je ne me trompe pas, et c'est peut-être le moment encore plus d'aller les soutenir. C'est parce que l'association a été attaquée par le pouvoir régional, c'est-à-dire un certain Laurent Wauquiez, sourcé par une fâcheuse d'extrême droite
du mouvement Reconquête,
c'est ça, qui allait balancer des trucs sur
Filaction,
sur l'association Filaction. Enfin, c'est juste du fantasme de gens d'extrême droite et relayé par des gens de droite. Donc voilà, donc c'est aussi une occasion supplémentaire, en tout cas, d'aller soutenir ce festival de Filaction autour de cinéma et autres sur les thématiques de violence sexiste, etc., etc. Et une autre petite chose aussi, c'est, pardon, je suis désolé, mais ça me vient en même temps qu'on en parle. Enfin, qu'on annonce des nouvelles. C'est, il y a aussi, vous savez, les jeunes mineurs qu'on a pu recevoir ici dans la causerie, qui ont aussi fait d'autres émissions sur Canu. Mais en tout cas, ils avaient été un temps dans des parcs publics, hein, évidemment, parce que les autorités locales n'ont pas foutu grand-chose. Là, ils sont dans des lieux qui ont été ouverts par les autorités locales, mais bon. Il manque de presque tout, j'ai envie de dire. Hein. Là aussi, contactez-les, n'hésitez pas. Ils ont besoin de trucs qui, ça va de paravent à des claquettes, en passant par de la bouffe, enfin des choses assez élémentaires. Donc n'hésitez pas, si vous avez un petit peu de fric ou autre, ou si vous avez des choses que vous voulez donner, n'hésitez pas à les contacter parce qu'il y en a grandement besoin. Voilà. Et il y a eux et d'autres.
Et dernière chose, il y a donc plusieurs manifestations qui sont prévues en soutien à l'Iran et en soutien à d'autres peuples qui vivent. Il y a le Soudan aussi, j'ai vu, il y a la Palestine. Donc il y a plusieurs manifestations. Je les ai pas en tête là parce que tout n'est pas encore bien annoncé comme il faudrait, mais c'est aussi parce qu'on manque de réseau, c'est toujours comme ça. Donc du coup, maintenez-vous informés. Généralement, c'est le vendredi ou le samedi. Donc voilà. Et généralement sur la place Bellecour. Donc,
voilà. C'est ça. Et ben voilà, on va se quitter, on est presque à l'heure en plus. Ouais. Et c'est Clara qui annonce le dernier titre.
Oui, et c'est Faune avec le titre Halloween.
Ah, parce que c'est demain.
Oui, c'est vrai.
C'est pour ça.
La meuf, elle n'est pas captée.
Et là,
ah,
moi,
parce
j'ai...
qu'on est en novembre.
Ouais.
Ah merde.
Et moi, j'ai peur parce que Clara commence par nous mettre un titre qui s'appelle Halloween, la veille d'Halloween. Et je pense qu'en décembre, peu de temps avant Noël, elle va nous mettre Mariah Carey.
Ah, peut-être.
Et là, moi, je m'inquiète.
Ou Monsieur Anki, on ne sait pas. Non, t'es pas très monsieur Anki, toi. T'es pas le caca Noël.
Ce sera Mariah Carey. J'en suis sûr.
C'est horrible. Ouais. Préservez-nous de ce malheur. nous, on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la causerie, 22h, 23h, comme d'habitude. Et quelques brouettes, évidemment. Bonne semaine à toutes et tous. Sur Radio Canu, vous avez plein d'émissions. Il y a aussi des bandes continues. Tout ça, fait par les petites mains et les petites voix d'animateurs et d'animatrices bénévoles. Hein, on le rappelle, Radio Canu, bénévoles, sans salariés, tout ça, sans publicité. Donc c'est fait par nos petites mains et nos petites voix. Voilà. Et ben allez, on se dit à dimanche prochain.
Et restez curieux.
C'est ça. Des bisous.
Des bisous.
Ciao.
Ciao, ciao.
darkest night and shiny moon. Strengthen our song and tune.
Holy fire, blessed water, sky, the loyal sons and daughters.
Standing in the moonlight there, with stars under the horn and hair.
Holy fire, blessed water, sky, the loyal sons and daughters.
And through the misty night forlorn, shines the crown from horn.
Sky,
the green Lord haunt on this Havane, help us to be born again.
Holy fire, blessed waters, sky, the loyal sons and daughters.